lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Peu importe de quoi elle a l'air. Elle peut être en bois d'ébène ou en fer blanc, en papier mâché ou en plastique de Chine. Elle peut être toute décorée ou non, ou être très ancienne ou pas. Peu importe d'où elle vient. Elle peut avoir servi avant, avoir abrité du sucre, des galettes, des lentilles, un chapeau mou, des escarpins, ou même n'avoir jamais servi à rien. Peu importe ce qu'elle contient. Elle peut renfermer un bazar, un bric-à-brac, des bricoles venues on ne sait d'où, des bouts de n'importe quoi, des boutons, des vis, des breloques, des brins de soie ou d'herbe folle. Elle peut ne rien contenir. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'en avoir une. Il y a tant de cachettes à lui trouver, tant de pièges à imaginer pour la protéger. On peut l'entourer de tant de sortilèges, lui inventer tant de mots de passe. Et après, il y a un tel malin plaisir à l'ouvrir, à la dérober, sa boîte à trucs, pour en partager enfin les secrets. Ce texte s'appelle « La boîte à trucs ». Il est tiré d'un livre qui s'appelle « Les bottes à splatch et autres mini-délices inquiétants ». Ce sont des textes écrits par Annie Agopian, illustrés par Albertine et publiés à Pas de Loup. Non, non, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien dans notre boîte à trucs, cette boîte à trucs qu'on a appelée On lit quoi nous, c'est le retour de l'émission consacrée aux littératures de jeunesse. Je suis avec Véronique, bonjour Véro.
Bonjour Simon.
Je suis aussi avec Philippe, notre metteur en son, bonjour Philippe.
Oh c'est beau.
C'est beau.
Ah oui c'est beau.
En tout cas nous on est très 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 contents de vous retrouver.
Un peu intimidé d'ailleurs.
Exactement, ça fait presque un an qu'on vous avait perdu de vue ou perdu d'oreille. Donc on a concocté une belle boîte à trucs. Oui. Où on a mis plein de livres, plein de surprises, des lectures, des petits poèmes que vous allez nous dessiner comme ça.
Il y a des mots, il y a des images.
Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Et puis comme d'habitude, il y a aussi un petit peu de musique.
Bah oui.
On va commencer avec de la musique. Ce mois-ci, c'est l'album choisi, ça s'appelle « Lis-le-la » du Petit Rayon Magique. Et on écoute tout de suite « Lis le rêve ».
Moi je rêve, moi je rêve.
Et nous aussi, on rêve avec eux.
Elles sont parties dans les étoiles.
Ah ben oui.
Ouais, c'est trop bien. Ouais.
C'est le grand retour du petit rayon magique. Le petit rayon magique, c'est Christophe Aline et Fred Bigot, deux artistes que nous avions accueillis en Mayenne, puisqu'en fait, leur premier album, Tipi Tipita, c'était la création du salon Croque les mots marmots, que Benjamin Media a bien voulu éditer. Et on les retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce deuxième album, Lilela. C'est toujours chez Benjamin Media. On retrouve les illustrations de Christophe Aline dans ce livre CD et la musique créée par les deux compères, Fred Bigot et Christophe Aline. C'est joyeux, vous allez voir, c'est un vrai voyage qui nous emmène à travers les îles du monde, des îles imaginaires, des îles rêvées.
Mais on a envie de partir. Hein.
On a envie de partir avec
la musique, hein,
ça fait du bien.
Ouais.
Voilà. Donc on retrouvera plusieurs extraits à travers notre émission. En tout cas,
risque de partir par contre, faut faire gaffe.
Ouais, moi on va partir avec eux.
Ouais, mais enfin bon, on a une émission à finir quand même.
Ah oui, bon d'accord. Véronique, on va commencer avec les tout petits. Et vous aviez envie de nous dire bienvenue.
Oui, bienvenue,
oui, bienvenue
les bébés.
Bienvenue Véro.
Bienvenue Lynn, merci. Bienvenue Monsieur Simon. Bienvenue et bon, alors on sait qu'il y a quand même un petit paquet de livres qu'on peut offrir à des tout-petits, des livres de très grande qualité et tout. Mais celui-là m'a arrêtée, alors je vais dire en plein vol, mais enfin bon, en plein vol de catalogage. C'est un livre-objet hein, qui célèbre l'arrivée d'un bébé. Et il est particulièrement réussi. Enfin, alors, d'un bébé, c'est un bébé animal à chaque double page, en papier découpé, ce qu'on appelle maintenant les sculptures papier, et qui représente à chaque fois un nouveau-né animal. Donc, on l'ouvre, double page, bienvenue petite tortue d'eau douce, et on déplie. C'est un des plus complexes, celui-là, parce que ce qui fait la particularité de ces découpages, c'est qu'ils sont d'une simplicité absolue et qu'il suffit d'une touche de couleur et tout est là.
C'est très graphique en fait. Pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est du papier blanc qu'on va déplier sur certaines parties. L'animal apparaît au fur et à mesure du dépliage.
Et c'est évident. C'est ça qui fait la force aussi de ce livre, la simplicité et l'évidence. Je crois que l'évidence, oui, c'est un des moteurs de ce livre.
C'est très difficile à faire.
Ah, j'imagine. J'imagine, parce que j'ai rarement vu aussi, c'est pas épuré, je sais pas comment dire, on touche, c'est juste.
Il y a un côté japonais, je trouve, dans la façon
aussi,
d'aborder, on pense à Komagata,
on pense à
ces grands ingénieurs du papier, et je trouve que Martha Comin, elle a un peu ce côté-là.
Là, elle dit, bienvenue joli museau de la souris, on a ce petit bout rose de museau, avec cette souris qui apparaît de façon évidente, je reviens toujours sur l'évidence, mais là l'évidence je pensais pas qu'elle pouvait être aussi alliée de l'illustration jeunesse, de l'illustration tout court. Bienvenue petit nez rose du lapin, et ça continue avec l'éléphanto, avec la minuscule petite grenouille, le courageux petit oiseau, c'est la dernière, et il y a un texte sur cette deuxième page, quand on déplie on a cet oiseau qui s'envole, qui a cassé sa coquille, le courageux petit oiseau qui a cassé sa coquille. Et mine de rien, même le texte, on voit qu'il y a un travail pour accueillir ce nouveau-né, pour accueillir le bébé, qui est vraiment touchant, qui est vraiment, presque bouleversant parfois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre-objet, puisque c'est un objet, il est carré, il est petit, et je pense que très tôt, ce bébé va pouvoir le prendre et le saisir.
Il tient bien dans les mains du bébé aussi.
Il tient bien dans les mains, voilà.
Ça peut être un très beau livre de naissance.
Moi, j'appelle ça un petit bijou de naissance.
Un petit cadeau de naissance.
Parce que des fois, on offre des petits bracelets, vous savez, des choses comme ça. Et bien ça, c'est un bijou aussi de naissance.
D'accord, ben on va plutôt offrir celui-là alors.
Voilà.
Hein, ouais. La gourmette, c'est un peu vieux.
Ouais, c'est moins cher.
Bon, voilà. Et on n'a pas dit l'éditeur.
L'éditeur, évidemment. Mais j'ai pas besoin. C'est les grandes personnes. Alors, les grandes personnes...
Dès qu'on parle de travail sur le papier...
De graphisme quand même très, très travaillé. On est chez les grandes personnes et merci à eux.
Et l'autrice Martha Comin, vous pouvez la retrouver chez, aux éditions de Lagrume aussi. Elle avait fait 3 précédents ouvrages,
oui,
mais qui sont pour les plus grands. Ouais. Donc là, c'est vraiment son premier travail pour les tout petits.
C'est vraiment très touchant.
Eh bien, ça tombe bien, vous nous avez dit bienvenue. Eh bien, moi aussi, j'ai envie de dire bienvenue. Bienvenue à plein de choses. C'est vrai que comme ça fait un an qu'on ne vous a pas eu. Voilà. Donc, bienvenue à tous les enfants déjà qui sont nés, hein, quand même, depuis cette dernière année. Donc, bienvenue forcément à tous les nouveaux parents, parce que ça va de pair.
Oui, bon courage.
Bienvenue à tous les nouveaux livres qui sont parus, hein, bien sûr aussi. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux éditeurs aussi.
Mais oui.
Et vous savez quoi ? J'en ai deux.
C'est vrai, qui sont nés pendant le confinement.
Et qui sont nés, en tout cas, pendant cette période où nous, on n'était pas là. Donc, moi, j'avais envie de les mettre en avant.
Bah, oui,
le premier, il s'appelle 6 citrons acides. Et c'est un éditeur qui nous vient de Nantes. Ce sont deux femmes qui se sont associées pour créer ce nouvel éditeur. Ces deux femmes, ce sont Marie Rébulard, qui a longtemps travaillé dans le milieu éditorial. Elle avait travaillé notamment chez Gulfstream, chez Talent Haut. C'est une graphiste qui est originaire d'ailleurs du département de la Mayenne.
Non.
Et si,
ah, il faut
si.
Le dire.
Tout à fait.
Il faut le dire parce qu'on va finir par avoir un sacré réseau. Là.
Voilà. Et puis la deuxième, c'est Sophie Hamon, qui elle est linguiste, docteur en sciences du langage et qui travaille beaucoup sur la grammaire, sur la phonétique et tout ça. Et les deux se sont alliés pour créer cette maison d'édition et donner en fait ce côté citronné à la langue. Mmh. C'est-à-dire, l'idée de cette maison d'édition, c'est vraiment de faire des albums, parce que pour l'instant, on est vraiment dans l'album. Il y a trois albums qui sont sortis, mais qui à chaque fois travaillent sur la langue, travaillent sur la phonétique, travaillent sur, alors pour différents âges. Mmh. Et c'est franchement une très très belle réussite. Le premier album qu'elles ont sorti s'appelle Six citrons acides sifflent sur le sentier. Alors si vous voulez vous entraîner un petit peu pour les virelangues, c'est parfait. Hein. Donc ça nous donne, voilà, je vous dis juste
le début.
Il y a
une histoire aussi. Hein.
Oui, il y a une vraie histoire. C'est une enquête policière très importante, oui, effectivement, puisqu'il y a en fait quelqu'un qui a volé plein de choses aux légumes et aux fruits et légumes, donc le début ça donne ça. Six citrons acides sifflent sur le sentier, susurrent des sornettes. Oh, sympa ces sucettes, super. Il déniche en chemin un champignon chagrin. Un jojo a chipé mon chapeau. Oh, pauvre chou, cherchons-le sur le champ. Mais bientôt, deux badanes dodues les abordent. Un brigand, il a babardé mon banjo. Bigre, ça va babarder. Tout attraque, les citrons tamponnent patatras, trois petites patates en tutu. Stop, il a taxé notre trottinette. Taratata. Plus loin, quatre hardis roses et ronds râlent. Ce sont leurs rollers qu'on a dérobés. Grrr. Mais d'autres mécontents marmonnent également. Malheur, ma mallette mauve. Maudit méchant. Le filou s'enfuit et les citrons foncent. Il a fauché notre fanion avant de filer Fissa. Quelle cohue, toute une cohorte en colère court après le pickpocket qui se carapate. Mais le zozo a beau zigzaguer, un citron zinzin rivalise de vitesse. Ouah, la pieuvre est tellement abasourdie qu'elle n'arrive plus à parler.
Voilà, on dirait du rap hein, par moment.
Ouais, il y a ce côté très rythmé, forcément. On joue sur le son, on joue sur la langue. Donc c'est vraiment un album qui est super à lire. Je ne t'ai pas dit la fin, hein, vous.
Ah bah non.
Il y a du suspense encore.
C'est...
Et puis le dernier qui vient de sortir, que j'aime beaucoup aussi, s'appelle Bilbalbul. C'est un imagier des sons. En fait, c'est un livre pour les plus jeunes, à partir de 2 ans, je pense, hein, ou quand on commence à parler. Et en fait, le but, c'est de lire ce livre à voix haute avec l'enfant. Et à chaque fois, on va changer juste une sonorité. Donc, c'est comme un imagier. Il y a aussi la phonétique qui est marquée. Donc, pour les enfants qui commencent à déchiffrer les lettres, en fait, ils vont pouvoir s'amuser à lire le mot, puisqu'on enlève toutes les lettres, évidemment, muettes. Oui. Et voilà, on garde juste le son. Et donc, ça fait quelque chose comme boule, poule, pull.
Ah ouais.
Bête, botte, pote, rotte. Route, roue, rond, rat, roi, poids, doigt, moi, ma, main, bain, ban.
Oh bah dis donc,
vous avez compris
original,
le principe. Ouais. Et donc, on va rentrer dans la langue par ce jeu phonétique. Ouais. Et c'est très ludique. Alors, c'est rigolo parce qu'on a reçu Marie Rébulard à la librairie. Et il y avait un jeune enfant qui a pris le livre, qui a commencé à lire. Il était en grande section. Et en fait, il s'est fait tout le livre. Il y a vraiment un côté très ludique qui vient dans le...
Oui, mais, et un mot que j'emploie très rarement, quand je le pèse, c'est pédagogique aussi, d'une certaine façon, dans le bon sens du terme.
Ludique.
Oui, ludique, ok.
Voilà.
Mais,
oui, il y a clairement...
Ça donne envie et on apprend en même temps. Quoi.
Tout à fait. Là, donc, on est vraiment dans ce type de livre. C'est très, très bien fait. C'est Sophie Hamon, donc l'éditrice qui a fait... qui a l'idée et qui a créé le texte, Marie Rébulard qui fait une partie des dessins et Aude-Marie qui fait l'autre partie des dessins. En tout cas, c'est vraiment un éditeur qu'on va suivre avec beaucoup d'attention.
Oui, vous m'avez convaincu, hein, parce que je cherche beaucoup des propositions comme ça qui vont travailler sur la langue avant la lecture. Quoi.
Exactement.
Ça, c'est excellent.
Et le deuxième éditeur que je voulais mettre en avant, qui est né aussi là, récemment, cet éditeur s'appelle La Partie. C'est un éditeur, alors je vais lire un peu ce qu'ils en disent, hein. Ils sont définis eux-mêmes. Donc La Partie s'est créée autour de l'idée d'une littérature où le récit est toujours lié à l'image. Le catalogue se compose d'albums et de documentaires. En allant chercher dans la création française et étrangère, contemporaine et intemporelle, le matériau d'un catalogue ouvert au vent de sensibilités multiples, La Partie propose à ses lecteurs, lectrices, de l'étonnement, du réconfort et parfois même du trouble. Convaincus par les vertus du merveilleux et de la rigueur, nous souhaitons donner à lire des textes et des images qui questionnent et offrent à rêver pour contribuer à la construction de lecteurs et lectrices émancipés. tout un programme, n'est-ce pas ?
Ouais, quelle ambition !
Une belle ambition, mais en même temps, les éditrices qui composent cette maison d'édition ne viennent pas de nulle part. Puisqu'en fait, nous avons Béatrice Vincent et Camille Vasseur, qui étaient deux éditrices de chez Albin Michel. D'accord. Et notamment, Béatrice Vincent, c'est l'éditrice qui avait la collection Trapèze chez Albin Michel. Vous vous souvenez, cette collection qu'on adore ici, dont on a parlé énormément.
Oui, oui, oui.
Donc, je pense que dans cette petite valise, elle est partie avec un petit peu plein d'auteurs. Et donc, on sait déjà que les livres de la partie vont arriver avec déjà un catalogue déjà conséquent. Donc, ce sont quatre femmes qui ont créé cette... c'est vraiment des éditions de femmes, hein, que je vous présente. Quatre femmes qui ont créé cette nouvelle maison d'édition qu'on va vraiment suivre avec beaucoup d'attention dans les premiers titres qui sont sortis. Donc, c'est plus gros hein, que les Citrons Acidins. C'est lié au groupe Gallimard, avec, voilà, comme les grandes personnes, en fait, c'est un éditeur associé. Et dans les premiers livres, on a déjà des grands noms de la littérature de jeunesse, puisqu'il y a un livre de Bruno Gibert, Le Vert Vert, là aussi un livre sur, sur les jeux phonétiques.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Un livre pour les tout petits de Pauline Martin, vous savez, celle qui fait la série Archibald chez Albin Michel, justement, et ben, qui s'appelle Bébé, qui est un très beau livre qui m'a fait penser un petit peu à Beaucoup de Beaux Bébés, vous savez, le grand classique où l'enfant va pouvoir se reconnaître.
Il y a le miroir aussi.
Voilà, exactement. Donc là, c'est par le dessin, mais c'est plein de petites scènes, en fait, du tout petit qui sont décrites. Et puis, il y a aussi un très bel album que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle donc Il faudra, de Ramona Badescu et Lorraine Capelli, qui est un texte très poétique sur l'histoire d'une jeune fille qui devient grande sœur. Et donc, elle va donner ce message, cette poésie, en fait, à son petit frère ou sa petite sœur qui va naître. En gros, il faudra que l'on fasse des choses ensemble, que je te montre, en fait, tout ce que je sais et tout ce que tu vas découvrir dans la vie. C'est un magnifique texte de Ramona Badescu et illustré par Lorraine Capelli, qui avait gagné avec Cap, notamment, le prix sorcière l'année dernière, il y a deux ans.
Cap.
Voilà. Donc voilà, deux éditeurs et moult éditrices qui nous annoncent de très très belles surprises à venir. J'avais envie de vous les présenter, leur dire bienvenue et on attend vos nouveautés avec grande impatience.
Moi, merci beaucoup de ces découvertes.
Dis donc, Véro, ce serait pas le temps d'une petite poésie ?
Oh bah si, si, il faut bien que je les trouve. Il se prend pour un roi persan. Il se cache dans un château, dans une chapka, dans une châtaigne. On le chatouille, il s'échappe. Tu veux savoir qui c'est ? Donne-lui ta langue, c'est le... Oui, c'est le chat, les devinettes de la langue au chat. Et sept peintures d'Aurélia Franti. Alors, les devinettes sont de David Dumortier, un grand poète de notre époque.
Tout à fait.
Et donc, on est chez Rue du Monde avec une petite poignée de poèmes. Ça doit être est-ce que c'est une collection ? Je ne sais pas, c'est pas grave. C'est surtout un petit livre. Je suis avec mes petits livres. Moi, j'arrive avec mes petits livres. Mais un petit livre plein de possibles aussi, je dirais, plein de devinettes poétiques et touchante et douce, enfin tout y est, toutes les émotions y sont, qu'on va picorer comme ça. Et les sept peintures d'Aurélia Franti, c'est vraiment sept petites peintures. Alors j'aime beaucoup, beaucoup cette illustratrice. Et là, c'est une pleine page, petite pleine page, mais pleine page quand même. Pareil, tout en délicatesse de son trait. Voilà, une petite dernière quand même, j'ai le droit.
On en écoutera après, hein, d'autres.
Ouais, mais même une petite dernière.
Bon, allez, vas-y.
C'est une pie mâle, parfois à queue, qui voudrait chanter comme les oiseaux avec ses touches de noir et de blanc. C'est un...
Piano.
Oui. C'est merveilleux.
Bien. En plus, je trouve, donc moi je trouve ça très bien. J'aurais pas trouvé, j'aurais été très déçu.
Il n'y a pas vraiment de piège, mais on se laisse transporter.
Mais c'est très beau en tout cas. Bah, on sait que David Dumortier, il a une écriture magnifique. Hein. Ses textes publiés aux chaînes éditeurs sont absolument superbes. Et puis, Rue du Monde a vraiment une culture de la poésie.
De la poésie.
Ça fait partie des éditeurs français qui publient.
Et de la poésie accessible
et contemporaine.
Voilà.
Vous vouliez continuer avec un album très particulier, très étonnant, très étrange, mais qui est vraiment superbe.
Donc on est chez 4048, chez 4048 qui a d'ailleurs une collection, mais je crois
alors 4048 c'est le label de 2024, en fait ça appartient à la maison d'édition 2024.
Alors voilà,
et c'est la partie jeunesse.
Ah oui, en fait, et la partie adulte, elle s'appelle comment ?
2024.
Ah oui, d'accord. Donc c'est
4048, ce sont les livres jeunesse de 2024.
Je croyais que c'était une collection de 2024. Belle. Je suis un peu perdue
c'est
là.
L'inverse.
Oui, d'accord. OK. Et donc j'ai ouvert ce livre Papa Ballon, petit, alors un peu plus grand que mes autres livres mais pas si grand que ça, carré. Des couleurs très douces avec et des ronds, tout est en rond avec quelques petits angles. Mais qui représente une petite fille qui tient un ballon. Qui est déjà en l'air, et ben elle le tient bien, hein, puisque c'est son papa. Et ce qui s'est passé, c'est que les adultes sont devenus des ballons de baudruche.
C'est pas pratique.
De baudruche ou de l'hélium, enfin peu importe, mais ils sont bien en l'air, hein, il ne faut pas les lâcher. Et donc, les enfants ont décidé de s'occuper de leurs adultes, de les amener au travail le matin. Alors quand ils les amènent au travail le matin, ben, ils les laissent, ils vont les retrouver le soir. Et ces adultes sont dans une pièce et finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils insistent pour travailler encore, même s'ils sont devenus des ballons. Mais tout ce qu'ils font au boulot, c'est discuter en regardant des débats politiques à la télévision. C'est super original. Hein.
Très, très original, oui.
Mais en fait, l'émission préférée de papa, c'est une série sur les voisins qui tombent amoureux les uns des autres. Mais il n'a jamais osé le dire. Santa Barbara. Oh, c'est vieux ça. Donc, les enfants vont vaquer, eux, à leurs occupations d'enfance, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aussi un petit peu transgresser la vie qu'ils avaient habituellement sous l'égide de leurs parents. Donc, ils vont pouvoir manger de la chantilly à satiété, enfin, plus que satiété. Ils vont pouvoir, j'ai plus le prénom, Anna, voilà, c'est ça, va chercher un croissant chez son ami Ahmed, donc qui tient la boulangerie de son papa. Finalement, il ne sait pas trop quoi faire, donc elle ressort avec 3 tonnes de viennoiserie. Enfin, voilà. Donc, les enfants s'éclatent. Pas les ballons, hein, heureusement. Voilà. Oh là, elle est bonne, celle-là. Et donc, ensuite, ils reviennent à la maison, tout ça, jusqu'au jour où un vent mauvais arrive et balaye un peu toute la ville et les ballons s'envolent. Donc, il faut récupérer, il faut aller essayer de retrouver les adultes. Hein. Je ne vous en dis pas plus. C'est une petite merveille d'histoire et d'illustration. Tout colle parfaitement. C'est original, jamais fait. Et cette autrice, Sean Park, vient d'avoir la révélation du livre jeunesse de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, donc qui est un prix qui permet d'aider les auteurs et illustrateurs qui démarrent.
Oui, les premières œuvres, en fait, tout à voilà. fait, oui. Et puisqu'elle est coréenne, mais elle vit en France. Elle a fait ses études aux Arts Déco de Strasbourg, il me semble.
Oui.
Donc c'est vraiment une artiste particulière.
Et j'étais très contente parce que je l'ai découverte avant le prix.
Ah, c'est bien.
J'étais contente.
Non, c'est bien.
J'étais contente.
C'est vrai que c'est une vraie star particulière.
On voudrait qu'on fasse des prix, nous aussi, comme
on
n'a qu'à
faire
ça.
Nous aussi, on n'a qu'à faire des prix.
On fait des prix, voilà.
On fait les prix de...
On lit quoi, nous ?
Bon, les prix d'on lit quoi, nous. Ouais. On fera ça. On y réfléchit, puis on vous redit tout de suite. Bien, très bien. Tenez. Mais ce ne serait pas l'heure d'un petit coup de cœur. Bah, c'est que des coups de cœur. Allez, jingle coup de cœur quand même.
Oh yeah.
De retour, le temps des coups de cœur et des lectures. Mais avant ça, Véro, je crois que vous vouliez nous introduire ce coup de cœur par une petite devinette.
Exactement. Elle rit. Oh, comme elle rit en ne regardant pas derrière elle. Et elle rit en se moquant bien d'hier. Et elle court entre les pierres et ses deux rives. Elle arrive. C'est là.
La rivière. Oui, vous avez vu, on a même l'ambiance sonore, c'est très très beau. Eh bien, tout ça est parfait pour introduire l'album « Je parle comme une rivière ». C'est un livre de Jordan Scott, illustré par Sidney Smith, traduit par Shaïn Kassim chez Didier Jeunesse. Chaque matin, je me réveille avec le bruit des mots, tout autour de moi. P-p- c'est pour le pain de l'autre côté de la fenêtre. Pour le corbeau croassant sur sa branche. L.
pour la lune qui disparaît quand vient le matin. Chaque matin, je me réveille avec le bruit des mots tout autour de moi. Mais je n'arrive pas à les dire. Le p du pain pousse dans ma bouche et s'entortille autour de ma langue. Le k du corbeau reste coincé dans ma gorge. Des larmes de lune se glissent sur mes lèvres en une longue plainte. Je me réveille le matin avec le bruit des mots coincés au fond de ma bouche. Et moi, je reste muet comme une tombe. Je mange mes flocons d'avoine en silence. Je me prépare sans dire un mot. À l'école, je me cache au fond de la classe. J'espère très fort que je n'aurai pas à parler. Quand le maître m'interroge, tout le monde se retourne et me regarde. Ils ne voient pas le pain qui prend racine et pétrifie ma langue. Ils n'entendent pas le corbeau croasser dans ma gorge. Ils ne se cachent pas les yeux devant le clair de lune qui jaillit de ma bouche. Tout ce qu'ils entendent, c'est que je ne parle pas comme eux. Tout ce qu'ils voient, c'est que mon visage grimace. Je ne peux pas cacher ma peur. Ma bouche ne marche pas. Elle est pleine à craquer des mots que je ne peux pas prononcer. Mes matins sont toujours difficiles, mais aujourd'hui c'était encore plus compliqué. Je suis tout coincé. Le maître nous demande de parler de notre endroit préféré. C'est à mon tour, mais ma bouche ne marche pas. Je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. Papa vient me chercher. « Ce n'est rien, rien qu'une journée trop compliquée pour parler, dit-il. Allons dans un endroit tranquille. » Papa m'emmène à la rivière. On marche le long de la rive à la recherche d'insectes et de pierres colorées. C'est bon d'être au calme et tout seul avec papa, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ma journée. Tous ces yeux qui scrutaient mes lèvres, qui se tendaient et se tordaient, toutes ces bouches qui se moquaient de moi. Je sens qu'un orage gronde dans mon ventre. Mes yeux débordent de pluie. Papa voit bien que je suis triste. Il me serre contre lui et me montre la rivière. Tu vois l'eau qui bouge ? C'est comme ça que tu parles. Je regarde l'eau. Elle bouillonne, tournoie, gicle et se brise. Papa dit que je parle comme une rivière. Plus tard, il faudra que je me souvienne de ces mots pour ne pas pleurer. Je parle comme une rivière. Quand je n'aurai pas envie de parler, je me répéterai. Je parle comme une rivière. Quand les mots seront trop durs à prononcer, je penserai à la rivière, qui bouillonne, tournoie, gicle et se brise. Je penserai aussi à la rivière au-delà des rapides, là où l'eau est lisse et brillante, tranquille. C'est comme ça que bouge ma bouche. C'est comme ça que je parle. La rivière bégaye, comme moi. Ce matin, je me suis réveillé avec les bruits des mots tout autour de moi. Je suis allé à l'école et j'ai parlé aux autres de mon endroit préféré. Je leur ai parlé de la rivière. Et j'ai parlé comme une rivière. C'était donc l'album « Je parle comme une rivière », un album écrit par Jordan Scott et illustré par Sydney Smith. C'est un livre qui est traduit par Shane Kassim et publié chez Didier Jeunesse. On vous laisse un petit peu méditer sur cet album et on se retrouve pour un nouveau morceau musical.
le chat quand il fait chaud. Mets ton chapeau s'il fait froid sur l'île au chat. Mets ta chaka sur l'île au chat quand il fait chaud. Mets ton chapeau s'il fait froid sur l'île au chat. Mets ta chaka.
C'est vous qui faites le chat ?
Non, c'est pas moi. C'est plein de chats derrière.
Ah, il y a plein de chats. Bah, c'est normal, c'est l'île aux chats.
Ouais.
Vous avez reconnu. Donc,
c'est des vrais chats. Hein.
Ah, bah, je pense que ce sont des vrais chats.
Ah, ils cassent bien au niveau du son quand même. Ouais.
Et oui, effectivement, bah, c'est le petit rayon magique. Hein. Le petit rayon magique, c'est Christophe Hélin. Enfin, ce sont Christophe Hélin et Fred Bigot qui, donc, font, qui ont fait cet album L'île-là. La mise en son, elle est toujours de Ludovic Roca chez Benjamin Bedia. Et on sait qu'ils sont très, très forts là-dessus. Mmh. Un des points forts de leur livre CD, c'est vraiment ça. C'est vraiment la qualité du son.
Ah ouais.
Et là, on l'a bien entendu encore.
Ah, c'est...
Je voulais revenir juste un instant sur l'album que je vous ai lu, donc Je parle comme une rivière. C'est un livre de Jordan Scott. Jordan Scott, en fait, c'est un peu l'histoire de sa vie. Il raconte dans une postface qu'enfant il était bègue et qu'un jour c'est son père qui l'a amené près d'une rivière pour lui donner cette image, l'aider à aller un petit peu au-delà de son handicap. Et c'est vrai que cet album m'a vraiment touché.
C'est incroyable.
Le texte que vous avez entendu est vraiment très beau, mais je vous invite vraiment à aller découvrir également les images de Sidney Smith. Sidney Smith, c'est un illustrateur américain qui est vraiment hyper talentueux. Et vous pouvez le suivre sur Insta, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très très beau ce qu'il publie. Il avait publié en France déjà un album chez Didier qui s'appelle D'ici je vois la mer, qui était vraiment très chouette, qui parlait des mines au Canada, en fait, souvenir d'un jeune garçon qui a vécu dans une ville minière, en fait, au Canada. Et puis récemment, il a signé Perdu dans la ville, aussi publié chez Kaleidoscope, qui était dans la sélection pour le prix Sorcière du meilleur album. Voilà, donc c'est vraiment...
C'est nouveau, Didier, des auteurs étrangers, ou c'est moi qui...
Non, c'est rare.
Ouais, c'est rare.
Mais quand ils le font, c'est pas pour rien.
Voilà.
Donc voilà, c'est vraiment, cet album m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et c'est vrai qu'ici, j'ai senti dans le studio une espèce d'émotion qui était dans la lecture. Donc voilà, cet album, je vous invite vraiment à le découvrir. On va continuer avec nos albums, mais des albums pour un petit peu plus grand peut-être.
Mais oui, avec toujours les petites fourmis rouges. Je dis toujours les petites fourmis rouges, c'est n'importe quoi.
Elles sont grandes, elles sont belles.
Fourmis rouges qui m'ont émerveillée avec Changer d'air de Jeanne Macken. On avait déjà lu des choses d'elle. Hein.
Eh bien, en fait, on avait présenté un roman chez Memo qu'elle avait illustré. C'était de Sigrid Baffert, vous vous souvenez ? Les poulpes, les petites... je ne sais plus, j'ai mangé le titre là.
Oui. Mais, ah, oui.
Allez-y, je vais retrouver.
Et donc, c'est l'histoire d'une maison qui aimait follement son quartier. Elle était bien, elle aimait beaucoup ses habitants qui la chouchoutaient, qui l'entouraient, qui l'enchantaient. Et la maison ronronnait. Tout se passait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, de maison et d'habitants. Et puis, jusqu'au jour où l'air devint moins léger, l'un détesta ce que l'autre aimait, l'autre voulut ce que l'un désirait, tout devint prétexte à se fâcher. Et donc la maison en subit les conséquences, elle devient très fatiguée, déprimée, et ses copines maison autour d'elle lui conseillent de changer d'air, d'aller voyager, d'aller trouver un autre endroit. Donc elle part une nuit avec ses habitants endormis à l'intérieur d'elle, et elle traverse de nombreux paysages pour arriver dans un endroit idyllique où les habitants vont se réveiller et retrouver un peu une sérénité, la pêche, et puis la bienveillance aussi. Enfin, j'ai dit que je ne parlerai plus de ce mot, mais enfin bon, la bienveillance quand même, c'est la vraie bienveillance. Enfin, ils se sont mis à se respecter, à regarder grâce à une nature luxuriante et tout, mais ça n'a pas duré, ça continue à chaque fois. Et là, la maison craque complètement, et là, elle les rejette, elle a tellement pleuré, en plus, c'est des inondations totales. Enfin voilà, je vous résume vraiment très brièvement ce qui se passe. C'est rien du tout, mais rien du tout par rapport à la réalité de ce livre, à la réalité des illustrations et du texte. Vraiment, en plus, l'autrice arrive à trouver un vocabulaire de maison, hein, un vrai vocabulaire. Elle invente des mots de maison que pourrait dire une maison. C'est des petits jeux de mots. C'est magnifique, magnifique. Et il y a un peu de Dali aussi dans ses illustrations.
Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Moi, je trouve que elle se Claude Pontise.
Claude Pontise,
alors,
c'est
pas
ça.
On n'est pas du tout dans une copie, dans un
non,
truc, mais c'est
tout.
Dans
il y a de l'inspiration, ouais.
Dans la
ouais.
richesse de l'univers,
exactement.
La création d'un univers qui lui ouais. est complètement propre, des inventions
des
de mots.
Des objets qui parlent, qui vivent.
Voilà. Et j'imagine c'est... aussi que cet album, il va vivre grâce aux enfants. C'est-à-dire que c'est complètement un ouvrage, je crois, que les enfants vont amener aux parents qui vont être peut-être un petit peu sceptiques, et en leur disant, comme Pontise en fait, hein, en leur disant, ouais. tiens, regarde ça, il y en a partout dans l'image, t'as vu ça.
Il y a plein de détails.
Les enfants qui vont faire découvrir aux adultes plein de choses.
Pareil, une créativité luxuriante comme la végétation qu'elle peint, quoi. C'est vraiment trop beau.
Non, c'est magnifique, moi j'adore.
C'est trop beau.
Et c'était La chose du mai qu'elle avait écrit.
La chose du mai dans les petits livres,
voilà,
romans.
De la Poligny.
Voilà, de la Poligny. Oh là là, belle histoire ça.
Allez, on continue
avec
un autre beau livre.
Voilà, c'est l'histoire. Trois petits points. C'est écrit par Corinne Dreyfus. Enfin, je dis c'est écrit, je ne sais pas. C'est écrit par Corinne Dreyfus et illustré par Charlotte Deslignoris. On est au seuil. Un livre, un petit album, voilà, avec des pages un petit peu épaisses, on se demande au début, et une façade d'immeuble. C'est l'histoire d'une petite vieille, très très vieille et tout usée, qui était si fatiguée qu'un matin, elle a décidé d'aller se coucher. Et là, on va chercher instinctivement la vie. La petite vieille, sur cette façade d'immeuble, on voit, c'est très discret, une vieille dame qui tire ses rideaux. Et au fur et à mesure, on a la possibilité d'aller ouvrir les rideaux par un rabat de carton et de voir qu'elle avait enlevé ses petites chaussures, qu'elle les a rangées soigneusement. Voilà, et on continue, et on s'aperçoit au fil des pages, on arrive à une petite page, on se rend compte que cette vieille est vraiment cette petite vieille, mais cette vieille, elle est vieille, cette vieille dame est très fatiguée, et on se doute qu'elle va se coucher pour s'endormir, mais peut-être pour toujours. On parle de la mort là, on parle vraiment de ça, avec cette double page où deux mains tiennent un drap, hein, qui se relève sur un corps qu'on imagine, et on
comme
ouvre
comme si elle tirait un peu le drap
en
fait c'est un livre qui est plein de métaphores,
c'est extraordinaire,
à la fois graphique
ouais.
et dans le texte,
ouais.
c'est ça qui est super,
tout
moi c'est-à-dire que rien n'est dit et tout est dit, c'est-à-dire que c'est vraiment par l'image, par des évocations de mots, en fait, on peut y mettre le sens qu'on a envie.
Exactement.
Mais c'est pas...
Voilà, c'est à peine suggéré. Et là, il y a toute cette liberté d'interpréter.
Bon,
donc, on soulève le drap et on voit que cette petite dame est partie. J'imagine, moi, mon interprétation, elle est partie sur les rivages de son enfance où elle se voit courir avec des petits amoureux ou des petits copains. Enfin...
Et on la voit un peu en...
On la voit. Alors là, je ne l'ai pas vue.
Hop, voilà, regardez. Vous la voyez pas.
Non, je la vois pas.
Bon, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Bah, je vous laisserai
découvrir. Elle a fermé doucement les yeux.
Vous regarderez les montagnes,
très, très
les formes et tout.
Hein. Okay. Bah, non, je l'ai pas assez
bien regardé. Non, c'est trop beau. Moi, je suis ouais, ultra voilà. fan de cet album-là.
C'est,
merci d'avoir choisi.
Elle a posé tranquillement ses vieilles mains et hop, sur son très vieux ventre.
Faut
voilà.
que vous le découvriez, en fait. Faut pas qu'on vous en dise trop
voilà.
parce qu'on en parlera forcément mal.
Mais
c'est un livre vraiment à découvrir.
Avec des couleurs naturelles. Enfin, je dis naturelles parce qu'on a des couchers de soleil, on a des levées, des aubes. Enfin, c'est magnifique.
Il est trop beau.
Voilà.
On est d'accord ?
Oui, on est d'accord.
Ok. Et ça confirme aussi que Corinne Dreyfus est aussi une autrice, pas qu'une illustratrice.
Oui, c'était pour ça que j'étais troublée.
Et voilà.
D'accord.
Eh bien, merci pour toutes ces belles nouveautés. Et nous allons continuer, en s'attardant un petit peu sur des collections pour les plus jeunes. Parce que c'est vrai qu'on parle assez peu de première lecture. Pourquoi ? Parce que souvent, l'acte littéraire est moindre puisqu'il y a un côté pédagogique.
Oui,
donc, il faut souligner quand il y a un vrai travail littéraire sur ces collections-là. Je suis sûre que c'est ce que vous vouliez souligner.
Exactement. Exactement, avec Kuma, petite noisette, de Haruna Kishi, Cyril Castin, chez l'École des loisirs, et dans la super collection, parce que je suis rarement déçue par les titres, Moucheron, Avant-mouche.
C'est les avant-mouches.
Les avant-mouches.
Donc attention, on n'est pas dans les toutes premières lectures, on est vraiment, faut
oui,
un tout petit peu
oui,
à l'aise avec la
c'est lecture. Déjà élaboré, oui. Mais quand même. Et Sidonie Petitbec, un autre titre de Clotilde Lacroix. Donc, la forêt est commune aux deux histoires, comme une matrice, bienveillante et consolante. Consolante parce que dans Kuma, petite noisette, petite noisette, c'est le hamster de Kuma. Et bah, il est mort, comme beaucoup de hamsters, au bout de 2 ou 3 ans. Hein. Et là, c'est la douleur terrible de Kuma. Comment combler l'absence, dépasser l'irrémédiable, comment survivre à un être dans lequel on a mis tout son amour. Ça nous est tous arrivé. C'est bouleversant et on a l'impression d'étouffer. Et voilà, avec Sidonie, on voit aussi Sidonie qui récupère un petit oiseau tombé du nid, ne jamais les enlever, les laisser par terre et les couvrir de tout leur amour, comme fait Sidonie, jusqu'à ce que ses parents viennent le chercher et le retrouver.
Ça, c'est aussi une vraie découverte, c'est le talent de Clotilde Lacroix qu'on connaissait en tant que illustratrice pour les tout-petits, hein, celle qui faisait les Lolottes,
la petite
Lolotte, qui est super. Mais elle a un vrai talent d'écriture également.
Ah, c'est magnifique.
Et alors, il faut savoir aussi que chez Moucheron, ils vont travailler beaucoup le principe de collection. C'est-à-dire que c'est souvent des personnages qu'on va retrouver
dans
des petites séries. Voilà. Sidonie, c'est le cas.
Kuma, il y en a une avant.
Il y en a déjà deux, au moins deux.
Bah là, c'est le deuxième,
voilà.
Je crois.
Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi l'idée de
retrouver des personnages, de se fidéliser et le plaisir de les retrouver.
Voilà. Donc, Moucheron chez l'École des loisirs, une collection
à suivre,
évidemment. On continue avec une autre collection qui s'est créée récemment, qui s'appelle Prums, c'est chez Casterman. Et chez Prums, il y a notamment une sous-collection qui s'appelle À tour de rôle, qui est assez originale puisqu'en fait elle incite les adultes, les enfants, enfin ceux qui vont le lire, de le lire à deux voix, un peu à la mode théâtrale. Et pour l'illustrer, rien de mieux qu'un extrait. Hein. Donc nous, on a choisi « Je peux te manger ».
Je peux te manger,
Non.
Je peux te manger, ça va pas la tête.
Voilà. Moi, je fais « Je le loup », donc je fais « Je peux te manger ». On va le refaire.
Je fais
« Le loup ». « Je peux te manger ».
Moi, je fais le cochon, ça va pas la tête.
Voilà, de Rémi Choran et Benoît Audet. On a complètement raté notre intro. Donc, on va vous lire le deuxième extrait.
Le deuxième chapitre.
En gros, le premier chapitre, c'est le loup qui a une révélation. Il a faim, il a très faim. Son meilleur ami, c'est le cochon. Et il se dit, je te mangerai bien.
C'est de l'amour fou, ça. Hein.
Bon, le cochon n'est pas tout à fait d'accord. Deuxième chapitre s'appelle « Dormir, ça calme la faim ».
Maintenant, fais comme moi. Dors un peu, ça va calmer ta faim. On mangera après.
Ça y est.
Ça y est quoi ?
Bah ça y est, j'ai essayé de dormir un peu et je n'y arrive pas.
Mais tu as juste essayé une demi-seconde. Personne ne s'endort en une demi-seconde.
Ah si si, ma mémé. Quand elle est devant la télé, elle s'endort en une demi-seconde.
Oui, mais tu n'es pas ta mémé. Ta mémé, c'est ta mémé, enfin. Arrête.
Eh oh, ne me réveille pas maintenant.
Je ne te réveille pas, tu ne dors pas.
Ah si, monsieur le spécialiste, je ronfle, et quand je ronfle, c'est que je dors.
Mon loulou, je peux t'assurer que tu ne ronfles pas comme ça, d'habitude je te connais.
Ah oui, monsieur, je sais tout, et comment je ronfle ?
Comme ça.
Eh non, mon vieux, c'est quand je suis enrhumé que je fais... Et là, je ne suis pas enrhumé.
Et quand t'es pas enrhumé, tu fais comment alors ?
Je fais plutôt...
Oui, c'est bien ce que je disais. Tu fais...
Ah, jamais. Je ne suis jamais... En dormant. Jamais.
Si, je t'ai déjà entendu faire...
Non, quand j'ai fait... C'est quand je ronfle et quand j'ai froid en même temps.
Justement, je m'en souviens quand tu fais... On faisait du camping en Alaska.
Je suis jamais allé en Alaska. Ah si, oui, avec toi. On a fait du camping et on a bien rigolé et t'avais le groin tout gelé. Mais bon, je faisais... Pas...
Bon, tu chipotes, mon pote. Arrête de causer. Et dors maintenant.
Je vais essayer, mais quand j'ai faim, j'arrive pas à dormir.
Ah, tu as faim? Je ne savais pas.
Toi, je vais te dévorer tout cru.
Calme-toi, animal, je rigole. Allez, bonne sieste et bon ronflement.
Oh pétard, j'ai fait une sacrée sieste, moi je suis bien reposé.
Tu as fermé les yeux exactement 14 secondes, ce n'est pas une sieste, ça.
Ah si, c'était une super sieste.
Tu n'as même pas ronflé.
Ah, tu vois que je ronfle pas.
Mais tu n'as pas ronflé parce que tu n'as pas dormi, tu m'énerves.
On vous laisse découvrir la suite, mais c'est un vrai plaisir à voix haute, on vous l'a montré.
Parce qu'on ne s'est pas entraîné en plus.
Non,
hein.
Pas du tout, non, c'était vraiment un one-shot. Non, c'est très théâtral et franchement, on vous invite à faire ce petit test avec vos enfants. C'est vraiment passé un très bon moment. Donc c'est la collection Prem chez Casterman et c'est à tour de rôle. Tiens, avant de passer au roman pour les grands, moi j'avais envie de faire un petit stop sur les documentaires, on en parle assez peu ici, avec deux documentaires qui sont absolument essentiels. Le premier est sorti il y a presque un an maintenant, le deuxième va sortir là en ce début de mois d'octobre. Donc ça s'appelle Le Petit Illustré de l'Intimité, c'est écrit et dessiné par Tiphaine Dieumégard et Mathilde Body, enfin écrit par Tiphaine Dieumégard et illustré par Mathilde Body, c'est l'atelier de la Belle Étoile, et ces deux jeunes femmes, l'une est sage-femme, donc Tiphaine Dieumégard, et Mathilde Body qui est professeure d'art appliqué, ont décidé de faire des livres sur... Sur le corps en fait des jeunes filles et des jeunes garçons, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien du tout. Il y a des livres sur le corps, on est d'accord, mais aucun ne cite précisément quels sont les éléments du sexe masculin, du sexe féminin. Et c'est vrai que pour pouvoir avancer dans la vie avec dans sa sexualité, dans sa découverte du corps, si on ne sait même pas comment nommer nos propres parties intimes, c'est très compliqué.
Ça veut dire
qu'elles
n'existent pas pour nous.
Exactement. Et donc ce livre est là et il est salvateur parce que franchement, il va permettre à toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons de savoir nommer ce qui les compose, mais aussi de connaître ce qui ne les compose pas, c'est-à-dire ceux du sexe
pas opposé.
complémentaire, on va dire, voilà. Enfin, de l'autre. En tout cas, c'est
de l'autre qu'on connaît.
C'est des livres qui sont beaux parce qu'ils sont simples, ils sont précis, avec le vocabulaire réel de tous les éléments qui forment le sexe féminin et masculin. En tout cas, c'est vraiment deux ouvrages que je vous conseille intimement, parce que ça parle d'intimité.
Ben oui. Oui.
Et on va écouter juste un petit extrait. En fait, c'est les autrices qui présentent en fait la campagne Ulule qui avait lancé le premier extrait. Comme ça, elles expliquent beaucoup mieux que moi ce principe-là.
Bienvenue sur la page du crowdfunding du petit illustré de l'intimité, de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des règles, etc. Premier livre engagé, inclusif et universel sur le sexe féminin. Un livre qui explique l'anatomie du sexe féminin et son fonctionnement simplement et sans fausse pudeur. Saviez-vous qu'en 2017, un seul manuel scolaire plaçait le clitoris correctement? Saviez-vous également qu'une récente étude de l'Université de Lyon montre que seuls 3% des femmes savent placer le clitoris sur un schéma? Et c'est sans compter sur les nombreuses femmes qui ignorent encore le fonctionnement de leur cycle. C'est pour tenter de remédier à cela que nous, Tiphaine Dieumégard et Mathilde Body, avons créé le Petit Illustré du sexe féminin. Un livre joliment illustré, à destination des enfants curieux, pour mieux comprendre le sexe des femmes, parce que le savoir, c'est le pouvoir.
Et ça, c'était donc le lancement du premier livre. Et donc, depuis, elles ont réalisé aussi celui sur le sexe masculin. Et vraiment, le montrer aux enfants, et même pas qu'aux enfants.
Bien sûr.
Même
à
tous les adultes, c'est vraiment faire un grand pas, je pense, pour la compréhension mutuelle. Des deux sexes. Ouais.
C'est pas une maison d'édition.
Elles ont créé leur maison d'édition, parce qu'elles voulaient être complètement libres, sauf que maintenant le livre est diffusé en librairie, donc vous pouvez le commander dans toutes vos librairies. C'est un livre d'utilité publique, deux livres. Okay. Vous nous parlez un petit peu de romans ados ?
Un petit peu. Donc deux titres, hein. je les ai réunis, hein, parce que ils sont On plonge dans une atmosphère sombre en les lisant, et oppressante, dans chacune des histoires. L'une est dystopique, l'autre est réaliste et actuelle. J'avais envie de vous parler des deux simultanément aussi, car le plaisir de lire un polar, enfin, il y a le plaisir de lire un polar, voire deux polars, oui, d'une certaine façon. Et il est très efficace avec Coltan Song, du collectif Blackbone. Donc, on vous parlera de ce collectif plus tard. Et chez Nathan, et de partir dans une grande aventure haletante, fuyant le monde noir et futuriste d'Au bord de la Terre de Sarah Turoche Dromery. Donc c'est une autrice que je suis aussi parce que j'avais adoré Aloïs, toujours chez Thierry Magnier. Il y a aussi des informations essentielles et capitales sur le fonctionnement de notre monde et des réflexions à mener auprès de ses lecteurs dans les deux livres. Franchement, je vous les conseille. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Juste, on peut dire que le collectif Blackbone, donc c'est un collectif de 4 auteurs qui, où on retrouve notamment Manu Kos, il y a une journaliste, Maëlys Jean-Préau, une éditrice, Marie Mazas, et puis Emmanuel Urien qui est aussi très intéressé par la littérature jeunesse, le journaliste. Ouais. Et donc, c'est des livres écrits à 16 mains, non,
oui.
Non 8, 8 quand même.
Oui. Pas avec les pieds, quand même.
Ouais, non, 16,
pas
8,
du tout.
8, 8 mains, tout. Qui vont nous emmener dans des histoires d'adolescents qui se retrouvent pris dans des gros
là, c'est sur le
société.
Trafic du coltan pour les smartphones. Donc, c'est très efficace, très bien fait.
Le deuxième était sur la mode.
Et le deuxième, ce sera sur toujours le milieu journalistique et le journalisme d'investissement. Et grand reporter.
Voilà, donc ça c'était pour Coltan Song du collectif Blackbone chez Nathan.
Et Au bord de la Terre, on est dans une dystopie où notre monde actuel est très actuel d'ailleurs, est quand même sous contrôle absolu et surtout une histoire d'amour d'un jeune homme que son père oblige à suivre sa famille au bout du monde parce que ce sont des scientifiques qui ça ressemble un peu aux Kerguelen, ces îles là, assez rudes et tout, et qui finalement qui est obligé de laisser son amour qui est Maya, qui est très très militante dans cette société atroce dans laquelle elle est. Et il va tout faire pour retrouver à travers les mers, retrouver cet amour, retrouver cette jeune femme. C'est absolument bouleversant. Évidemment, je ne vous dis pas la fin. J'ai été émerveillée par la fin et transportée. Voilà.
Un grand roman de dystopie. Donc.
Voilà. Et d'un roman sentimental.
Sarah
aussi.
Turoche, Dromery, on l'avait aussi vu dans I Invent You, que j'avais beaucoup aimé.
Oui. Oui, c'est vrai. Oui.
Moi aussi, j'ai un petit coup de cœur en roman ado que je voulais vous présenter. Ce roman s'appelle Azul. C'est écrit par Antonio da Silva, publié au Rouergue dans la collection Doado, effectivement, la collection épique même. Et Antonio da Silva, on l'avait découvert avec le roman sorti 32B, qui était un roman qui allait tambour battant. On était dans une voiture sur l'autoroute et ils n'arrivaient pas à sortir de cette autoroute-là. Ouais, donc il y avait un côté très thriller. Et puis on l'avait retrouvé avec ABC, qui était un roman beaucoup plus social sur un gamin africain qui voulait venir jouer au basket en Europe et puis ça se passe pas comme il voulait. Azul, on oublie tout ça, c'est complètement différent, c'est une plongée dans l'art, dans l'histoire de l'art. On va suivre un jeune garçon, Miguel, qui a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est la possibilité d'entrer et d'évoluer à l'intérieur des plus grands tableaux de maître.
Oh la chance.
Pas mal quand même, hein.
Ah ouais.
Donc forcément, il en profite. Et à chaque fois qu'il rentre dans un tableau, en fait, il va vivre dans cet univers. C'est-à-dire qu'il est capable de communiquer avec les personnes qui sont les personnages secondaires en fait, du tableau, et puis à changer un petit truc et tout ça. Et à chaque fois, il trouve quelque chose à faire un peu à la mode. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelait Code Quantum, où il fallait faire une belle action pour pouvoir s'en sortir. Bah, là, il y a un peu ce côté-là. Sauf qu'évidemment, il va vite se faire repérer par la brigade de l'art qui va évidemment... le pourchasser. Il y a une histoire d'amour aussi. Mais bon. Il y a plein de choses qui vont se passer. C'est un vrai thriller. Ça se lit vraiment comme ça. La composition du livre est fascinante parce qu'on se fait bouleverser à chaque retournement. Et puis, c'est une vraie rentrée dans l'art. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il décrit un tableau, ben, il y en a plein. On a envie de les retrouver, les redécouvrir, puisqu'il donne des détails. Donc en plus, voilà. Et il y a un twist à la fin. Enfin, je ne vous raconte même pas. Je me suis fait complètement renverser.
Vous en êtes toujours parmi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un vrai, très, très beau roman à découvrir à partir de 13-14 ans. Ben voilà. On arrive déjà à la fin de notre émission, comme d'habitude. Allez, on va finir quand même avec une petite bande dessinée.
Bah oui,
une grande bande dessinée. Pourquoi une petite bande dessinée ?
Vous nous avez présenté les 3 tomes, là.
Oui, tout à fait. Et oui, c'est le retour, effectivement, de Lucien. Lucien et les mystérieux phénomènes. C'est la série de Delphine Lelay et Alexis Roelou.
Qui sont en Mayenne.
Qui sont en Mayenne, effectivement. Donc, il faut promouvoir la proximité et les auteurs locaux.
Oui.
Mais il publie quand même chez Casterman, qui est une grande maison nationale. Et puis Lucien, c'est juste génial, donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Dans ce Lucien, je vais faire un pont d'ailleurs avec pas mal de livres dont on a parlé, qui parlaient un petit peu du féminisme et compagnie. Lucien, vous savez, il fait toujours des enquêtes un petit peu étranges, il y a toujours un peu de fantastique, et bien là, ils vont s'attarder sur les sorcières. Et vous savez très bien qu'au Moyen-Âge, les sorcières, elles étaient pourchassées, poursuivies.
C'était risqué.
Voilà. Et là, ça se passe à l'époque contemporaine. Lucien et sa classe vont partir dans un voyage scolaire et ils arrivent dans le château qui, selon Lucien, a été le château d'une sorcière. Et donc, évidemment, il y a toute une histoire qui va se passer. Comme d'habitude avec, avec les deux auteurs, il y a du fantastique, on ne sait pas trop, il y a des enquêtes. Et puis finalement, ils se servent de leur histoire pour parler aussi d'autres sujets. Et là, le sujet qu'ils ont choisi, c'est justement le rapport fille-garçon. Comment vivre entre fille et garçon, notamment quand on est jeune, avec tout ce que la société nous impose comme...
comment vivre normalement, quoi.
Voilà, c'est ça, comment vivre des relations normales. Voilà. À la fin, il y a comme d'habitude dans la BD des petits conseils, des petits jeux. En fait. Donc là, c'est sûr, le rapport fille-garçon. En tout cas, c'est comme d'habitude très, très bien fait. Moi, j'aime beaucoup le dessin d'Alexis Aurélou et les histoires de Delphine Lelay. Voilà, c'est publié chez Casterman. Le troisième tome s'appelle Sorcière. Et puis, écoutez, on va se quitter en musique, comme d'habitude.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup, Véro, de nous avoir retrouvés sur cette nouvelle émission. Merci à vous de nous écouter.
Merci
Philippe,
monsieur
pour
Simon.
Le son, toujours aussi excellent. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Là, cette fois-ci, on devrait réenchaîner toute une saison, on l'espère en tout cas. On se quitte en musique avec Neverland, tiré de l'album Lilela. C'est le petit rayon magique, Christophe Aline, Fred Bigot, le tout publié chez Benjamin Média. Nous, on vous salue, on vous embrasse, on vous dit au mois prochain.
Au revoir.
Nous partirons à Neverland, l'île perdue où rien ne pousse, frappée d'écume, semée d'embrouille, ce Neverland me fout la frousse.
Neverland.
Il n'y a personne à Neverland, rien qu'un brouillard sans horizon, des arbres morts, des champs d'épines, une pluie glaciale pour saison.
Neverland, 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 Neverland.
Je suis resté à Neverland, les arbres morts ont disparu. Des chants d'oiseaux, des chants de fleurs, les fleurs de l'île de Neverland.
Neverland, 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 Neverland.
Ne cherche pas ce Neverland. Car cette île n'existe pas, tu la vois dans cette chanson, mais c'est ton imagination.